Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau podcast En Piste. Et aujourd'hui on va parler des violences faites aux femmes avec Jules qui va nous définir différents termes. Bonjour Jules.
Bonjour à tous.
On aura aussi une partie sur l'actualité des violences faites aux femmes avec Clément et Jules. Bonjour Clément.
Bonjour à tous.
Par la suite, Elsa nous parlera de la justice face à ces violences. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Enfin, Rose, ambassadrice du harcèlement dans la cité scolaire, abordera le sujet du harcèlement et cyberharcèlement. Bonjour Rose.
Bonjour.
Les présentations sont faites et on commence sans plus tarder avec Jules.
Pour commencer, je vais définir le mot violence. Une violence, c'est une atteinte à l'intégrité physique et morale, la domination qui est souvent sexiste ou une soumission qui est reliée à la peur de la femme ou une emprise psychologique de l'homme, des relations souvent inégalitaires, qui ont un but destructeur, avec une position toujours haute pour l'homme et basse pour la femme. Ensuite, il y a 6 types de violences. Violence administrative, où quelqu'un peut empêcher un changement de papier, un refus de divorce ou un refus de dépôt de plainte, ou un changement d'état civil pour des personnes transgenres. Il y a ensuite les violences économiques, un refus de l'accès aux comptes, surveiller les comptes bancaires, toucher le salaire à la place de l'autre. Il y a ensuite les violences psychologiques, qui vont de l'insulte, l'harcèlement, le chantage, ce qui provoque de la culpabilisation et de l'humiliation, ce qui peut aller jusqu'à casser ou abîmer des objets. Il y a ensuite les violences physiques, qui peut aller du coup, l'atteinte à l'intégrité, des brûlures ou empêcher de sortir la femme, qui vont souvent jusqu'à des étranglements ou des coups beaucoup plus violents. Les violences gynécologiques, les frottis sans consentement, les stérilisations forcées, les refus de contraception et surtout, le refus d'IVG ou IVG forcé, les violences sexuelles comme les prostitutions forcées, l'harcèlement sexuel, souvent courant au travail, ou le cyberharcèlement, le viol et les tentatives de viol. Je vais aussi caractériser le mot attouchement, c'est une aminimisation de l'agression sexuelle. Il faut aussi savoir caractériser les violences d'un point de vue légal avec le code du travail ou et pénal. Les tendances générales face au viol est de banaliser ou le déni. Il faut donc en connaître la qualification. Les médias, les pubs ou même la musique ont tendance à banaliser les violences. On remet en doute la parole des victimes. Je vous inviterai à lire le livre de Valérie Ray-Robert, Une culture du viol à la française.
Merci beaucoup Jules. Ces définitions vont nous permettre de mieux comprendre la suite de ce podcast ainsi que l'actualité. Et d'ailleurs, en ce moment, l'actualité, elle bouge un peu et des décisions font parler les médias. C'est Clément et Jules qui vont nous en parler.
Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la situation à l'étranger et des mesures prises contre les femmes. Alors l'Irak s'apprête à abaisser l'âge légal du consentement de 18 à 9 ans, permettant ainsi aux hommes d'épouser de très jeunes filles. Donc pour donner un peu de contexte, le parlement irakien, qui est dominé par une coalition de partis musulmans chiites, qui sont très conservateurs, s'apprête à voter un amendement qui annulerait la loi sur le statut personnel du pays. Et en plus de l'abaissement de l'âge légal du mariage de 18 à 9 ans, l'amendement priverait aussi les femmes de leur droit au divorce, à la garde des enfants et à l'héritage. Il est aussi important de rappeler que près de 28% des filles en Irak sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et près de 22% des mariages non enregistrés concernent des filles de moins de 14 ans. Donc cette loi est une vraie catastrophe pour les femmes, car on pourrait dire qu'elle légalise le viol sur les enfants, ce qui va grandement faire augmenter la violence sur les femmes. Cependant, l'Irak n'est pas le seul pays à prendre des mesures fortes contre les femmes, car dorénavant, la voix des femmes est bannie en Afghanistan. Suite à cette nouvelle loi, les femmes afghanes n'ont plus le droit de chanter, de lire des poèmes, mais aussi de se maquiller sur leur voile intégrale. Maintenant, quand une femme sort dans la rue, elle ne peut plus parler et ne doit plus montrer son visage. Alors cette nouvelle restriction est encore une nouvelle sorte de violence faite aux femmes, car on arrive à un point où on cherche tout simplement à effacer la femme de la société.
Moi, je vais vous parler de l'affaire Mazan, une affaire qui a été extrêmement médiatisée en France. Donc l'affaire Mazan, ça met en lumière les failles de la justice face aux violences sexuelles. La victime, Gisèle Bilico, victime de plusieurs viols pendant 10 ans, voit son agresseur jugé. La justice requalifie les faits de viol en atteinte sexuelle, une infraction moins grave. Cette décision minimise l'impact du crime, un phénomène courant qui illustre le manque de reconnaissance des violences sexuelles par le système judiciaire. La défense de l'accusé a utilisé le terme ambigu parlant de relations consenties ou de mauvaise compréhension mutuelle, des formulations qui jettent le doute sur la parole de la victime. Ce choix des mots reflète la tendance à atténuer la gravité des actes.
Merci à vous. Effectivement, les femmes sont menacées dans de nombreux pays du monde. Mais comment réagit la justice face à toutes ces affaires? Et c'est avec Elsa qu'on va pouvoir voir ça.
Merci Margot. En effet, ces affaires sont parmi les plus délicates pour notre système judiciaire et même si certaines décisions sont largement approuvées, d'autres laissent un sentiment d'injustice pour les victimes. On va donc commencer par quelques chiffres pour poser un peu de contexte. Déjà, l'Observatoire national des violences faites aux femmes estime que chaque année, environ 94 000 viols ou tentatives de viols se produisent en France, mais que seulement 10% des victimes déposent plainte. Malheureusement, moins de 1% de ces plaintes aboutissent à une condamnation. Concernant les violences conjugales, d'après le ministère de l'Intérieur, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son partenaire. En 2020, environ 150 000 plaintes ont été déposées pour ça, mais le nombre réel de victimes reste bien plus élevé et presque impossible à déterminer correctement. De nombreuses affaires de viol ou de violences conjugales ont marqué la France, mais aujourd'hui on ne va parler que de deux d'entre elles. Pour commencer, l'affaire Jacqueline Sauvage. En septembre 2012, Jacqueline Sauvage assassine son mari Norbert Marot de 3 coups de fusil dans le dos. Durant son procès pour homicide volontaire, on apprend cependant qu'elle a agi ainsi car il l'a violée et l'a battue, elle ainsi que ses filles, depuis de nombreuses années. Elle est condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari, devenant ainsi un symbole. En effet, cette décision judiciaire avait suscité beaucoup d'incompréhension et de colère, soulevant la question de la légitime défense préméditée. Elle est finalement graciée en 2016 par François Hollande, mais cette affaire montre bien la difficulté qu'a la justice à prendre en compte les années de violences subies par les victimes de violences conjugales. On va maintenant parler de l'affaire de la Tournante de Fontenay-sous-Bois. Donc l'affaire concerne des viols collectifs commis dans les années 1990 par plusieurs garçons contre deux jeunes femmes, Aurélie et Nina, âgées alors de 16 et 15 ans. Les agressions ont duré plusieurs années, les victimes étant intimidées pour qu'elles ne portent pas plainte. En 1999, elles ont finalement osé dénoncer les faits, entraînant une longue enquête et un procès dans les années 2000. À son issue, 6 des 8 jeunes hommes ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 6 ans de prison ferme, et les deux derniers ont été acquittés. Ce cas a révélé de nombreux problèmes, comme la lenteur de la justice, et a également soulevé des débats sur le soutien aux victimes et les failles du système judiciaire face à ces violences sexuelles en groupe. Mais pourquoi est-ce que les affaires de viol sont si complexes à juger? D'abord, il y a très souvent un manque de preuves. L'absence de témoins ou d'éléments matériels complique l'avancée des enquêtes et la prise de décision. Ensuite, les procédures judiciaires sont souvent éprouvantes. En effet, les victimes doivent témoigner face à leur agresseur et revivre leur traumatisme. Et enfin, les procédures sont souvent très longues, notamment à cause des enquêtes, ce qui décourage les victimes d'aller jusqu'au bout. Donc pour résumer, même s'il y a énormément de cas de viol et de violences conjugales en France, très peu d'agresseurs et de violeurs comparaissent devant la justice et encore moins sont condamnés, notamment à cause de la difficulté des enquêteurs à trouver des preuves. Cependant, comme on a pu le voir, certaines affaires tristement célèbres ont soulevé des questions concernant l'efficacité de la justice dans ces cas-là.
Merci Elsa, on en a appris davantage sur la justice face à ces horribles actes. Les femmes sont atteintes de nombreuses violences et le harcèlement ainsi que le cyberharcèlement rentrent dans cette catégorie et c'est Rose qui va nous en parler un peu plus.
Donc le 7 novembre était la journée nationale de lutte contre le harcèlement en France et pour cela, ici au lycée, l'équipe d'ambassadeurs contre le harcèlement était au rendez-vous encadrée par la CPE et l'infirmière. Donc une journée de prévention au harcèlement de midi et deux était organisée. Il y avait de nombreux ateliers tels que des jeux, des murs d'expression et même un atelier de prévention et d'information encadré par une représentante du centre de santé sexuelle de Villard-de-Lans. Donc tous les lycéens ainsi que les troisièmes étaient invités à suivre notre parcours d'activité pour s'informer et se sensibiliser au harcèlement. Donc l'équipe ambassadrice du harcèlement est composée d'environ 10 lycéens qui s'engagent à suivre des réunions, à organiser des événements et à se porter disponibles et à l'écoute des victimes. Donc certes, cette journée fut une réussite ici à Jean Prévost, presque tous les élèves portaient des badges et des rubans verts. Cependant, il ne faut pas oublier que le harcèlement malheureusement se produit tous les jours et d'autant plus dans le milieu scolaire et ce, même sous notre nez. Donc merci de contacter le 3018 en cas de harcèlement ou de cyberharcèlement.
Merci à toi. Maintenant, pour clore ce podcast, on va débattre tous ensemble autour d'une question. Comprendre les comportements d'un harceleur, est-ce le pardonner?
Donc tout d'abord, selon moi, le harceleur agit suite à des soucis personnels, notamment dans la plupart du temps. Donc par exemple, un manque de confiance en soi, des soucis familiaux.
Bah ouais, je trouve que c'est quand même important d'avoir aussi le point de vue de l'harceleur, parce qu'il faut savoir ce qui se passe à la maison. Car la plupart du temps, c'est des enfants soit qui sont pas trop, dont les parents ne s'occupent pas trop. Et du coup, l'enfant, il va se sentir un peu isolé et à travers à travers la violence qu'il peut donner aux autres, et ben, il va se trouver une place dans la société et se sentir vivant et utile.
Et aussi par rapport à Clément, ce que tu disais, que comprendre les comportements d'un harceleur, c'était important, je suis d'accord avec toi. Et aussi, je pense que c'est vraiment important aussi pour cibler la prévention, parce qu'on fait beaucoup de prévention pour les personnes qui sont harcelées, appeler le tel numéro, etc. Mais je trouve que c'est aussi important de faire de la prévention pour les harceleurs. Parce que, par exemple, comme tu as dit, ça peut venir d'un mal-être, etc. Et donc, je pense que savoir tout ça en parlant avec des harceleurs, je pense que ça pourrait nous permettre de plus peut-être réduire un petit peu le harcèlement, etc.
C'est vrai que la prévention, ça a un rôle important, mais aussi les parents, ils vont avoir un rôle important. Souvent, ils ne sont pas au courant que leur enfant est un harceleur. Mais des fois, lorsqu'ils l'apprennent, ils se sentent visés eux et ils vont donc défendre leur enfant harceleur au lieu de voir la vérité en face. Et du coup, ça va faire un engrenage et des tensions de la famille de l'harceleur ou encore de la famille du harcelé.
Pour rebondir sur ce qu'a dit Margot, moi je pense que vraiment le rôle de l'éducation dans le harcèlement, c'est très important parce que dans la croissance d'un enfant, c'est énormément lié à l'imitation. Donc ce qui est directement le plus proche de l'enfant, c'est ses parents. Il va souvent imiter les comportements, comme par exemple une famille où les gros mots et peut-être des actions violentes sont extrêmement banalisées. Ça va favoriser à ce que l'enfant le reproduise, pas forcément dans le cercle familial, mais aussi à l'école, ce qui peut amener à des comportements... de harcèlement et une fois que le parent va connaître et savoir que son enfant fait ça, ça revient sur le fait de sentir visé et va vachement défendre son enfant ou dire qu'il ne peut jamais faire ça au lieu d'accepter la situation et essayer de traiter la question qui a été mise en évidence par le système éducatif ou par le parent de l'enfant victime de harcèlement. Ce qui pose énormément de problèmes dans l'éducation aujourd'hui.
Par rapport à ce que Jules et Margot vous disiez, je suis d'accord avec vous, les parents, ils ont quand même un rôle très important, mais je trouve qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi tout ce qui va être les fréquentations, tout ce qui va être les amis, l'endroit dans lequel l'enfant il va vivre, enfin, il va passer ses heures libres, etc. Je trouve que ça va énormément l'impacter et ça pourrait potentiellement, de mauvaises fréquentations, ça pourrait l'amener à suivre l'effet de groupe, par exemple, et à agir d'une manière qu'il n'aurait pas fait en temps normal, juste avec l'éducation de ses parents. Mais là, comme ses amis le font, il va le faire aussi. Je pense que c'est un truc qui est quand même assez courant, je pense, même si on ne le voit pas trop.
Moi, je pense que c'est important de comprendre les raisons du harceleur pour que justement, il adapte ses comportements et qu'il ne reproduise plus les violences qu'il produit. Mais comprendre son comportement, pour moi, ce n'est pas forcément le pardonner, parce que je pense que c'est un truc quand même grave et c'est compliqué à pardonner parce que ça laisse des séquelles tout au long d'une vie. Ça entraîne des problèmes encore pendant plus longtemps, alors que pour moi, ce serait injuste que le harceleur il soit pardonné et qu'il aille mieux, alors que le harcelé, ça le suivra toute sa vie.
Je pense aussi que la compréhension et écouter, c'est important, extrêmement important pour plus tard prévenir contre le harcèlement, parce que sur une population, un échantillon de population totale, beaucoup de personnes vont être reliées à la même cause. Certains vont harceler à cause de problèmes dans le cercle familial, d'autres à cause dans le cercle d'amis proches, et certains c'est un manque de confiance en soi ou juste un sentiment de mal-être dans le système éducatif où il est.
Merci à tous et merci aux auditeurs et merci à Axel qui est à la régie. On espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve la fois prochaine pour un nouveau thème.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.